CTMA veut souligner cette année le 50e anniversaire de la traverse Souris-les-Îles.
Et c'est pour ça que Raphaël Turbide, historien, nous en parle aujourd'hui dans sa deuxième capsule. Bonjour Raphaël.
Bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, on parle, après avoir parlé la semaine dernière du Manic, des îles à découvrir.
On va parler du développement touristique. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter là-dessus, ouais. De voir à quel point l'impact de l'établissement du service de traversier à cette époque-là, donc en 1971-72, a donné un coup de barre au développement de l'industrie touristique aux îles. C'est assez frappant. Et justement, ben, ça nous aide à comprendre aussi pourquoi ça vaut la peine de souligner l'anniversaire de ouais. cette traverse-là.
Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, des premiers qui sont débarqués, c'était en 71-72?
Il faut se rappeler que le Manic est seulement arrivé aux îles en septembre 1971.
Ah oui,
il y avait évidemment toute la saga de l'attente du bateau qui était supposé d'arriver pour le printemps. Donc, la saison 71 n'a pas eu lieu, même qu'à ce moment-là, le Nord Gaspé, qui était l'ancien navire, n'était plus en service. Donc, en 71, il n'y avait juste plus de service de navire. Donc, c'était toute une saga. Et cette saga-là s'est terminée donc avec l'arrivée du Manic en septembre. Or, c'est seulement, bien sûr, au printemps suivant que la première saison du Manic a commencé et rapidement, la CTMA s'est retrouvée débordée avec une affluence importante. On parle de plus de 22 000 visiteurs déjà en 1972. Aujourd'hui, on va se dire que c'est pas un gros chiffre, mais bien sûr, après 50 ans d'évolution, il y a eu le temps de se passer des choses. Pour les îles de la Madeleine à cette époque-là, c'était un afflux majeur de visiteurs, un afflux qui était imprévu aussi, les îles n'étaient pas prêtes.
Est-ce qu'on a un portrait de ces visiteurs-là?
On s'entend que la plupart des visiteurs initiaux étaient bien sûr des exilés, des compatriotes de la diaspora madelinienne, hein, bien sûr, tous ces gens qui s'étaient établis dans certaines régions qu'on connaît bien, comme par exemple la Côte-Nord, la Gaspésie, la vallée de la Matapédia, le Saguenay, et aussi la Beauce, bien sûr, le contingent montréalais de Verdun qui commençait déjà à être considérable. Tout ce beau monde-là, bien sûr, avait la soif de revenir visiter l'archipel et quand ces gens-là ont entendu parler qu'un nouveau service de traversier était mis en place, bien, ils se sont présentés en masse et ça leur a donné l'essentiel de ce nouveau tourisme ici sur l'archipel.
Mais de voir une affluence comme ça... Est-ce qu'on était prêt aux îles à les accueillir, à les héberger, par exemple?
On n'était pas prêt. Il n'y avait pas d'infrastructures touristiques de masse. De masse, c'est toujours relatif quand on parle des îles, mais faut comprendre qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de restaurants, il n'y avait pas vraiment de bars, il n'y avait pas vraiment non plus d'attractions touristiques organisées. On se rappelle que le musée de la mer venait d'être mis en place et n'était même pas encore sur le Cap Gridley à cette époque-là. La Grave n'était pas encore un site historique développé. En fait, tout était à faire. Et bien sûr, à ce moment-là, on a rapidement constaté le besoin de s'organiser. La TR est apparue dans ces années-là et bien sûr aussi, l'offre d'hébergement, entre autres, s'est développée parce que, bien sûr, au départ, ces touristes-là étaient pas mal tous des gens donc, qui avaient de la parenté ici aux îles et se fiaient sur la disponibilité de pouvoir venir loger dans les maisons. Mais bien sûr, il n'y avait pas que des parents, des apparentés parmi ces touristes-là. Il y avait aussi toute la jeune génération du baby boom qui débarquait en sac à dos sur l'archipel. Et bien sûr, ces jeunes aventuriers-là n'étaient pas toujours au goût de la population locale qui voyait cette faune-là arriver sur l'archipel.
Ah oui, on a eu une impression d'être envahi à ce moment-là.
C'était l'arrivée de la Révolution tranquille, l'arrivée du baby-boom, justement, aux îles. Et c'était l'arrivée d'une jeunesse, donc, qui sortait, évidemment, de la fin des années 60. On connaît les grands moments de cette époque-là, du mai 68, de la Révolution dans tous les sens du terme. Et qui arrivait, bien sûr, ici, sur un archipel qui était encore très conservateur, qui était, bien sûr, très catholique, et qui voyait arriver ces gens-là qui se promenaient et qui souvent venaient même arrêter aux maisons, cognaient aux portes pour quêter de la nourriture, pour quêter des abris, ainsi de suite. Donc, c'était un choc culturel, carrément. Et pour les Madelinos, ben c'était quelque chose qu'il fallait digérer. Et si on s'attarde un peu à lire les journaux de l'époque, hein, les Madelinos et les premiers radars, il manque pas de colonnes de lettres d'opinion pour parler de l'envahissement des maudits touristes qui brisent notre tranquillité et notre isolement, notre paix séculaire jusqu'à un certain point. Et bien sûr, ça a peut-être des échos avec les situations qu'on vit encore aujourd'hui. C'est pour montrer que l'arrivée du tourisme a eu un effet très fort sur la population des îles.
Tu as effleuré dans la première capsule le fait aussi que cette ouverture-là sur le tourisme et même sur la diaspora, peu importe, aura permis également à ce que tu as appelé la révolution tranquille qui existait donc dans les milieux urbains de se transporter jusque chez nous.
C'est faut pas non plus voir ça comme un moment d'une coupure radicale non plus. Tout ça se fait d'une façon progressive et déjà dans les années 60, il y a des changements majeurs qui arrive aux îles de la Madeleine. On a parlé, par exemple, de l'établissement de la rénovation du port de Cap-aux-Meules. Le gouvernement intervient beaucoup déjà ici aux îles de la Madeleine, mais ce qu'il faut voir, c'est que au début des années 70, avec l'arrivée de ce tourisme jeune-là, c'est plus le côté culturel qui rentre en ligne de compte. Il y a des grands changements culturels qui s'opèrent à ce moment-là. Les îles s'ouvrent à une réalité, disons, plus urbaine, justement, plus montréalaise, plus québécoise. De toute façon, le Québec, à cette époque-là, dans les années 70, vit une grande effervescence culturelle et ça rejaillit sur l'archipel des îles de la Madeleine. Et on voit qu'il y a un délaissement peut-être du conservatisme, de la tradition, vers quelque chose de plus ouvert sur le monde, justement. Et cette ouverture-là, si elle n'est pas appréciée par certains, par beaucoup de gens même, ben il y a quand même toute une jeunesse ici aux îles qui voit là-dedans le moment d'un renouveau, si on veut.
Oui, bien pour la CTMA aussi, il y a c'est une opportunité d'affaires, oui, mais c'est aussi être aux premières loges de ces changements-là.
C'est tout. On peut difficilement être plus aux premières loges que ça. La CTMA amène tout ce contingent-là de personnes et bien sûr, ça développe un nouveau... Ça développe à la CTMA vraiment une nouvelle façon de fonctionner. Il faut comprendre que, justement, tout ce qui est service à la clientèle sur le navire, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et donc, il faut développer ce service-là. On fait venir des gens de l'extérieur pour former les employés et à donner un bon service à la clientèle sur le navire. Et même, c'est aussi un moment important, c'est l'arrivée des femmes sur les bateaux de la CTMA. Hein, on peut se douter que l'époque pré-traversier de la CTMA, c'était bien sûr des équipages entièrement masculins. Ouais. Et les femmes n'avaient donc pas vraiment de place là-dedans. Mais bien sûr, l'arrivée de ce côté service à la clientèle-là amène une main-d'œuvre féminine et tranquillement, pas vite, ben les femmes font leur place à la CTMA.
Et en terminant, peut-être, est-ce que déjà là, en 72-73, on s'aperçoit que peut-être que le Manic est trop petit?
C'est en fait un constat qui s'impose dès l'été 72 parce que le Manic ne fournit tout simplement pas à la demande et justement son exiguïté, le fait qu'on ne puisse pas rentrer beaucoup de voitures à l'intérieur, pose un énorme problème. Et donc, il faut partir à la recherche d'un nouveau navire et déjà en 72, les tractations se font pour viser quelque chose de plus grand et rapidement on spot, si vous me permettez l'anglicisme, le Lucimo de Montgomery qui se promène, fait d'abord la navette Borden et Cap Tormentin au Nouveau-Brunswick, donc les Madelinos connaissent déjà le navire. Il est aussi affecté plus tard à la traverse entre Sydney et Port-au-Basque à Terre-Neuve. Donc un navire qu'on sait qui est capable d'affronter des conditions océaniques et qui fait l'affaire des Madelinos parce qu'il est deux fois plus grand que le Manic.
Ben justement, dans notre prochain rendez-vous, tu vas nous proposer d'en connaître davantage sur Lucie Maud Montgomery?
On va faire connaissance avec Lucie Maud et on va réaliser que ce navire-là, qui a quand même fait opérer pendant 22 ans ici aux îles, a vu l'évolution de l'archipel dans un contexte aussi où, bien sûr, le tourisme a toujours pris plus de place face à une industrie de la pêche qui, elle, tendait à décliner beaucoup. Et donc, le visage économique de l'archipel s'est énormément métamorphosé dans les 20 ans qu'a opéré le Lucie Maud ici aux îles.
Ben, donnons-nous rendez-vous dans une semaine pour en savoir davantage. Merci beaucoup, Raphaël Turbine.
C'est encore un plaisir. À la semaine prochaine.